Merci d'avoir choisi RFI pour vous informer. Minuit à Paris, 23h temps universel.
Paul Lancin Spinelli.
De gros moyens déployés par l'armée israélienne à Jénine, en Cisjordanie occupée. Bulldozers, véhicules blindés et drones ont encore ratissé la ville où se cacheraient des terroristes selon les soldats de l'État hébreu. L'armée israélienne annonce avoir tué 50 personnes dans le secteur depuis le 14 janvier. Le secrétaire d'État américain en visite au canal de Panama, une infrastructure sur laquelle Donald Trump veut remettre la main pour contrer une influence chinoise supposée. Marco Rubio a prévenu le président panaméen José Raúl Mulino que son pays devait procéder à des changements immédiats pour éviter des mesures américaines. Le dirigeant américain face aux réponses du Mexique, de la Chine et du Canada après la mise en place de droits de douane. Ottawa annonce saisir l'Organisation mondiale du commerce pour bloquer ses taxes. Et puis, le premier grand tournoi de judo de l'année sans la légende française de la discipline, Teddy Riner, opéré récemment, qui a fait l'impasse sur le Grand Slam de Paris pour se concentrer sur sa préparation des JO de 2028. Quand les armes se taisent à Gaza, elles se réveillent en Cisjordanie occupée. Alors que la trêve dans la bande terrestre est toujours en cours entre Israël et le Hamas, les soldats israéliens se déploient sur l'autre grand territoire peuplé par les Palestiniens. Des opérations militaires qui ont permis de tuer 50 personnes considérées comme terroristes depuis le 14 janvier selon l'armée israélienne. Les militaires sont appuyés par des bulldozers, des drones et des véhicules blindés. Des moyens utilisés ce dimanche pour elle qui a annoncé avoir détruit une vingtaine de bâtiments dans la ville de Jénine, Oriane Verdier.
Oui, voilà bientôt 2 semaines, comme vous le disiez, que les habitants du nord de la Cisjordanie occupée vivent une agression constante. Bombardements, raids de soldats israéliens accompagnés de bulldozers qui détruisent maisons, canalisations d'eau, réseaux électriques et toute infrastructure. Au moins 18 personnes ont été tuées, dont une fillette de 2 ans, selon des responsables palestiniens qui affirment que seulement 6 d'entre eux étaient des membres de groupes armés. Cette nuit, l'armée israélienne a donc annoncé une nouvelle opération contre ces groupes armés palestiniens dans le nord du territoire occupé illégalement par Israël. Au total, 20 bâtiments ont été détruits donc dans le camp de réfugiés de Jénine, selon l'agence officielle palestinienne Wafa. Le directeur de l'hôpital de la ville affirme que certains des services de son établissement ont été endommagés. Les habitants craignent d'autres explosions dans la nuit. Depuis le 7 octobre 2023, en parallèle de la guerre à Gaza, l'armée israélienne et les colons israéliens mènent des raids ciblant particulièrement les camps de réfugiés, ces villes où se sont installées les familles palestiniennes qui ont fui ou ont été expulsées de leur maison en 1948 lors de la création de l'État d'Israël. Israël parle de lutte contre le terrorisme, mais les Nations Unies dénoncent des déplacements forcés et des destructions massives.
Oriane Verdier. Et pendant ce temps, le premier ministre israélien, lui, a pris la route des États-Unis ce dimanche. La visite de Benjamin Netanyahou à Washington sera la première d'un chef d'État pour Donald Trump depuis son investiture. Le président américain qui a aussi lancé une invitation à Abdallah II, le roi de Jordanie, pour organiser une rencontre le 11 février prochain. Parmi les priorités géopolitiques du locataire de la Maison-Blanche, il y a aussi le canal de Panama. Donald Trump menace de reprendre cette voie cruciale pour le commerce maritime mondial et pour mettre la pression. Marco Rubio est actuellement en visite sur le site dans le pays d'Amérique centrale. Un peu plus tôt, il avait rencontré le président panaméen José Raúl Mulino, le secrétaire d'État américain qui a averti que les États-Unis prendraient des mesures contre le Panama s'ils ne procédaient pas à des changements immédiats. En fait, Donald Trump assure que le canal est sous influence chinoise, une hypothèse qui désavantagerait selon lui les navires américains. Elisa Fellier.
Au cœur de l'argumentaire du président américain sur un supposé contrôle chinois, une entreprise hongkongaise chargée de la gestion des ports à l'entrée et à la sortie du canal.
Ça ne fait en rien un contrôle par la Chine. Ou alors, il faut considérer que tous les terminaux de HPH, de Costco et d'autres entreprises chinoises dans le monde sont des points de force du Parti communiste et de la Chine. Mais c'est en aucun cas le cas, évidemment.
Paul Touré, directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime, va plus loin. Il estime même que Pékin n'a aucun intérêt à user de son influence pour bloquer le canal par lequel transite 3% du commerce mondial.
Couper le canal de Panama serait couper un flux entre la Chine et les États-Unis dans les deux sens. Et aujourd'hui, le partenariat, il est commercial, il est comme ça. Pourquoi la Chine couperait une route qui finalement sert à approvisionner une partie de son soja et qui sert à expédier du Made in China qui est consommé en masse par les Américains?
Donald Trump assure que les navires américains payent plus cher pour traverser le canal. La réponse de Paul Touré.
Quand on met le nez dans la comptabilité du canal de Panama, on découvre 500 navires américains sur à peu près 10 000. Donc on a bien un problème, c'est qu'il n'y a ni compagnie américaine, européenne, ni bateau américain, ni pavillon américain.
En plus de vouloir contrer les intérêts économiques de la Chine au Panama, l'administration Trump souhaite avancer sur d'autres sujets comme l'expulsion des immigrés clandestins vers les pays d'Amérique latine et centrale.
Elisa Félier et d'ailleurs le président panaméen José Raúl Mulino a proposé à Marco Rubio que les États-Unis utilisent un aéroport panaméen pour expulser ces migrants illégaux et ensuite les répartir dans les pays d'Amérique du Sud. Une lutte pas assez intense contre cette immigration illégale, c'est aussi ce que reproche Donald Trump au Canada. Une façon pour lui de justifier les droits de douane imposés depuis ce samedi. Mais le Canada a annoncé ce dimanche qu'il contestera ces mesures devant l'Organisation mondiale du commerce. Le gouvernement canadien a également annoncé des taxes sur les produits américains. En représailles, le Mexique et la Chine, également concernés par de nouveaux droits de douane, ont également promis de réagir, tout comme l'Union européenne ce dimanche, et ce si Donald Trump choisissait de viser également les 27. L'UE qui fait appliquer depuis ce dimanche son premier texte pour réglementer l'intelligence artificielle. L'une des grandes mesures, c'est l'interdiction de l'IA pour identifier des personnes par reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public. L'application du texte va se faire de façon graduelle sur 2 ans. En août prochain, les logiciels qui génèrent du texte et de l'image comme ChatGPT devront se soumettre à des règles de transparence sur les données utilisées pour entraîner leur modèle. Il y a urgence pour protéger la dernière population autochtone d'Europe, les Samis qui vivent de l'élevage de rennes dans des conditions de froid parfois extrêmes, à cheval sur la Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie. Mais ce patrimoine culturel, eh bien, il est menacé. C'est selon un rapport d'Amnesty International. L'ONG a travaillé avec le Conseil Sami, une organisation de représentation et de coopération transfrontalière. Ce sont des raisons environnementales qui inquiètent le plus, Igor Strauss.
Le changement climatique menace doublement l'existence du peuple autochtone Sami, s'inquiète Amnesty International dans un rapport intitulé « Transition équitable ou colonialisme vert ». Les variations climatiques, 3 à 4 fois plus rapides en Antarctique que sur l'ensemble de la planète, recouvrent le sol d'épaisses couches de glace qui empêchent les rennes d'accéder au lichen et alimentent une concurrence entre éleveurs autour des espaces de pâturage. Mais les Sami sont également victimes des projets énergétiques et d'extraction de ressources en Laponie au nom de la transition énergétique. En Norvège, la création d'un parc éolien sur des terres utilisées par les éleveurs samis a été déclarée illégale par la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire du pays, qui a jugé qu'il violait les droits des samis. Le rapport d'Amnesty pointe également les conflits liés au projet d'exploitation d'une mine de nickel en Suède et à la prospection minière en Finlande, dans des zones traditionnellement consacrées à l'élevage de rennes. L'ONG et le Conseil Sami réclament donc aux autorités des pays nordiques de renforcer les consultations des populations samis et de solliciter leur accord avant d'autoriser la construction d'infrastructures susceptibles d'empiéter sensiblement sur leurs droits.
Igor Strauss. Et puis, 6 mois après la fin des Jeux Olympiques, les meilleurs judokas du monde se retrouvaient de nouveau sur les tatamis parisiens. L'Arena de Bercy accueillait ce week-end le premier grand tournoi de l'année. Ça s'appelle le Paris Grand Slam. L'engouement n'a tout de même pas atteint celui des JO, hein, dans la mesure où plusieurs médaillés olympiques, notamment, ont dû faire l'impasse. C'était le cas de Teddy Riner. Lui qui a remporté 2 médailles d'or olympiques l'été dernier s'est fait opérer du coude au début du mois, du coude droit. À 35 ans, le Guadeloupéen veut donc se soigner pour attaquer, dans les mois qui arrivent, sa préparation pour les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028.
Ça faisait trop longtemps que je laissais traîner. Aujourd'hui que j'ai réussi à gagner mon 3e titre olympique et ma 5e médaille d'or olympique, je me suis dit, voilà, si tu veux partir sur Los Angeles, il faut faire les choses bien. Donc il fallait que je passe sur le l'UIA. Qu'il resculpte un petit peu mon articulation, qu'il nettoie toutes les malfaçons. Aujourd'hui, c'est chose faite, donc du coup, j'ai attaqué la rééducation. Et puis, step by step, on va revenir tout doucement. Je ne me précipite pas. Los Angeles, c'est dans maintenant 3 ans et demi. Il faut se laisser le temps, il ne faut pas courir, parce qu'une Olympiade, c'est long. Il va falloir monter sur des beaux tournois, aller bien se préparer, comme j'ai fait pour Paris. Prendre son temps, mais bien se préparer.
Teddy Riner au micro d'Éric Mamruth. Et puis c'était l'un des génies annoncés du ballon rond, le footballeur anglais Marcus Rashford connaît une période difficile avec Manchester United. À 27 ans, l'attaquant va donc rejoindre Aston Villa sous forme de prêt. Le club est actuellement 8e du championnat anglais, United qui s'est incliné ce dimanche 2-0 contre Crystal Palace est 13e. C'est la fin de ce journal sur RFI, minuit 10 à Paris, 23h10 en temps universel.